Je vais donc passer la parole au professeur Henrion, que je ne présenterai pas, parce que vous le connaissez tous, vous connaissez son implication depuis des années dans les sujets les plus difficiles de notre spécialité, ceux qui ont une dimension à chaque fois humaine, comme il y a 20 ans, le problème des femmes HIV positives, et vous savez que c'était un arrêt de mort à l'époque, et puis le problème de violence, avec le rapport Henrion, dont il ne va pas nous parler, maintenant le problème de la problématique de la GPA, et donc il a une dimension éthique tout particulière, et on le remercie une fois de plus d'être là.
Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le rapport du groupe d'experts qui a été remis en septembre 2000 à Madame Gillot, secrétaire d'État à la santé et aux handicapés alors, afin d'évaluer d'une part l'impact des violences sur la santé physique et mentale des femmes et d'autre part de présenter des propositions susceptibles d'améliorer l'information et la formation du corps médical, n'a pas suivi la destinée habituelle des rapports qui est de terminer dans le fond d'un tiroir de ministère parfaitement enterré et oublié. Malgré l'ambiance un peu pessimiste de la matinée, je pense que nos recommandations, si elles n'ont pas toutes été suivies des faits, ont eu tout au moins une conséquence heureuse. Elles ont servi de détonateur pour une prise de conscience généralisée. Quel était le contenu de nos recommandations ? D'abord, assurer une meilleure connaissance des violences familiales en recensant et en publiant en particulier les cas de mort, ce qui nous semblait essentiel au plan médiatique. En second lieu, renforcer la formation initiale et continue de tous les médecins. Ensuite, saisir l'occasion de la grossesse pour les mettre en évidence les violences. Ensuite, assurer la mise à l'abri des femmes victimes afin d'éviter que les maris ne les retrouvent et ne les tuent, et vous verrez que cela se produit encore malheureusement. Installer des lieux d'écoute et de prise de conscience et de prise en charge des hommes violents, ce qui était absolument inconnu. Et d'autre part, et enfin, installer des liens entre les différents intervenants au niveau local, police, gendarmerie, magistrats, médecins, etc. Alors, qu'en est-il devenu après 13 ans ? 13 ans plus tard, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Eh bien, l'évolution a été quand même très importante. Au fil des mois, on a perçu un frémissement dans l'opinion qui a été très vigoureusement relayé par les associations, la presse, les médias, qui ont été toutes unanimement favorables. Les autorités civiles ont emboîté le pas. La Commission sociale des évêques de France, qui a fait un rapport en 2003 sur les violences envers les femmes, et Amnesty International, qui a fait un autre rapport en 2006. Mais rien, je dis bien rien, n'eût été possible sans l'action des politiques et des pouvoirs publics d'une remarquable continuité, quelle que soit la tendance politique. Et tout à l'heure, nous avons entendu Madame André. Eh bien, il y a eu Nicole Perry, communiste, qui a déclenché l'enquête ANVEF que vous connaissez tous. Et tout s'est poursuivi jusqu'au notre ministre actuel, Madame Nadja Vallaud-Belkacem, en passant par le Premier ministre François Fillon, qui décréta en 2010 l'année de la femme. Et leur action dûment relayée par les départements, par les délégations départementales et régionales, ont donné lieu à toute une série de transformations dont certaines sont encore en cours. D'abord, la connaissance du phénomène est vraiment bien meilleure. En effet, la délégation d'aide aux victimes du ministère de l'Intérieur, la DAV, publie chaque année depuis 2006 une étude nationale des décès au sein du couple recensant sur tout le territoire les assassinats, les meurtres, les violences suivies de morts sans intention de donner et même maintenant les suicides. C'est ainsi qu'on sait qu'en 2012, il y a eu 166 femmes et 31 hommes décédés. Le nombre des femmes, quoi qu'on en dise, reste assez constant puisque le chiffre était de 168 en 2006 et qu'il est de 166 en 2012. Il y a des fluctuations, il y a des bonnes années, il y a des très mauvaises années. On dénombre aussi 25 enfants victimes, et c'est, le chiffre est à peu près là encore constant. 9 victimes collatérales de la famille, des amis, 14 homicides de rivaux, qui sont réels ou parfois fantasmés, 2 ex-conjoints qui ont été tués par leur ex-beau-père, et enfin 67 auteurs se sont suicidés, 51 hommes et 3 femmes. Ça me paraît juste. Le total des violences est assez impressionnant, puisque cela fait 314 décès, presque l'un par jour en France. Et en outre, les conséquences sur les enfants sont dramatiques. 20 mineurs ont été témoins directs de la scène où on trouvait le cadavre en rentrant chez eux. Et 140 enfants sont devenus orphelins. 18 de père et mère, 111 de mère et 11 de père. D'autre part, à partir de l'enquête en VEF, Mme Sorel-Cubizol, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire au début des années 2000, a bien mis en évidence tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est-à-dire qu'un tiers de ces femmes s'estiment en mauvaise santé, qu'elles ont plus d'infections chroniques, plus d'hospitalisations, plus d'arrêts de travail, que 80% sont sans arrêt stressés, que 50% se disent déprimés et que 40%, 30 à 40% recourent à l'alcool et à différentes drogues pour essayer de supporter ce qu'elles endurent. Et une enquête récente de l'INSEE, qui s'intitule « Cadre de vie et sécurité », qui a porté sur 17 000 personnes âgées récemment, de 18 à 59 ans, de 2011 et 2012, a retrouvé la notion que les médecins, comme nous l'avions dit, étaient bel et bien les premiers consultés par ces femmes, 29% des cas. Enfin, le ministère a prévu une reprise de l'enquête en VEF étendue aux hommes à partir de 2015. Ensuite, la législation. Elle a été considérablement améliorée depuis 2004. Il y a eu 8, vous entendez bien, 8 lois et d'autres circulaires. Et bien entendu, il serait fastidieux de vous les détailler, mais toutes ces lois ont été faites pour protéger les femmes, pour écarter, pour éloigner le mari et pour traiter les hommes violents. Je vous citerai, en 2004, la loi a donné compétence, était relative à la réforme du divorce. Elle a donné compétence au juge des affaires familiales pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal. En 2005, une loi relative au traitement des récidives fait faciliter l'éviction du domicile de l'auteur. En 2006, la loi a étendu le bénéfice des mesures d'éloignement aux gens qui n'étaient pas mariés et surtout elle a consacré au plan pénal l'éviction du conjoint et elle a décrété qu'il y avait vol entre époux, ce qui n'était pas fait auparavant. En 2007, c'est une loi relative à la prévention de la délinquance. Et là, c'est important, et cela intéresse directement les médecins. En effet, on a entendu ce matin qu'ils étaient toujours pris, et c'est vrai, entre le secret professionnel, leur formation et celui du respect de la vie privée. Et si la femme leur semble menacée de mort, il leur est quand même possible, bel et bien, de signaler au procureur de la République, je vous cite le texte de la loi, « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, et nous venons d'en parler, son accord n'est pas nécessaire. » Reste évidemment au médecin à déterminer à partir de quel moment la femme n'est pas en mesure de se protéger. En août 2007, encore une loi instaurant une injonction de soins pour toutes les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. En 2010, une loi relative à l'ordonnance de probation. Et celle-là est très importante. Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à la victime une ordonnance de protection, interdire à l'agresseur de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, de détenir ou de porter des armes, d'attribuer la jouissance du logement ou la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, d'autoriser la victime à dissimuler son domicile, ce qu'on nous demandait depuis longtemps, ou sa résidence. Et toutes ces mesures étaient prises pour une durée maximale de 4 mois. Il y avait les mariages forcés et là, le contrevenant s'exposait à une sanction de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et encore, la victime se voyait proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection, et nous allons y revenir. En 2012, c'est une loi relative au harcèlement sexuel. Et en 2013, une loi est en cours de navette sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a été adoptée en première lecture au Sénat. Elle revient, je crois, devant la Chambre. Et au titre 3, on voit un allongement de 4 à 6 mois de l'ordonnance de protection dont je vous ai parlé et qui était limitée à 4 mois. Et d'autre part, une généralisation du téléphone grande écoute sur lequel je vais revenir. Ensuite, bien entendu, on réaffirmait le principe de la plainte et non de la main courante, et on limitait, et on luttait contre ces mains courantes. Vous savez que ça fait longtemps qu'on demande à la police et à la gendarmerie, mais enfin, c'est bien difficile. Alors, autre sujet de satisfaction, eh bien, il y a de nouveaux dispositifs d'information et de protection des femmes. Premièrement, le numéro d'appel, 3919. Tout le monde considère qu'il est normal. Non, il a été créé en 2007 par la Fédération nationale solidaire des femmes. Et chaque année, il y a près de 70 000 appels, ce qui a d'emblée surpris les médias. Une mission interministérielle de protection des femmes contre les violences et de lutte contre les traites des êtres humains, ce qu'on appelle la MIPROF, a été créée le 3 janvier de cette année pour coordonner toutes les données concernant les violences. Un site web intitulé « Stop violence faite aux femmes » peut être consulté. Un dispositif de téléprotection, je viens de vous le dire, téléphone portable grand danger, TGD, a été expérimenté à Bobigny, en Alsace et sur plusieurs départements. Il a fait la preuve de son efficacité. Il a été préféré au système de bracelet électronique en Espagne et l'expérience a été tellement concluante que son usage sera généralisé à partir de janvier 2014 à la suite d'une modification législative. Enfin, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, les CIDF, forment désormais un réseau national qui couvre toute la France et 1250 lieux d'information en France et outre-mer sont actuellement en activité. Enfin, l'hébergement d'urgence des femmes, ça c'était beaucoup plus difficile, ça nécessite pas mal d'argent et évidemment c'est un petit peu délicat. Eh bien, 1650 solutions d'hébergement en urgence sont prévues en 2017. Autre progrès, les professionnels qui appliquent les lois ont modifié leur comportement. Vous savez que chaque procureur est parfaitement libre de déterminer s'il poursuit ou pas, mais cependant, les magistrats, et ça c'est évident, ont été sensibilisés. Et un guide de l'action publique a été publié en 2004 par la Direction des affaires criminelles et des grâces à Paris. La gendarmerie et la police. La police, les femmes étaient vraiment pas très bien reçues. Eh bien, il faut dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu une charte d'accueil dans les services publics et plusieurs dispositifs, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez voir. Il y a d'une part des référents dans les unités de police et les unités de gendarmerie. En second lieu, il y a des intervenants sociaux qui sont près des services de police et brigades de gendarmerie. Il est prévu, actuellement c'est déjà pas mal couvert, la France est très bien recouverte, mais il est prévu en 2017 350 postes supplémentaires. D'autre part, il y a des intervenants qui dépendent des associations d'aide. Et la police et la gendarmerie peuvent parfaitement faire appel à une association et diriger la femme vers cette association. Et enfin, depuis 2006, il y a des psychologues qui sont en relation ou dans les services de police et les brigades de gendarmerie. Et début 2013, il y avait 52 psychologues dans les services de police ou de gendarmerie. Autre amélioration, la prise en charge des agresseurs. Je vous ai dit tout à l'heure, elle n'existait pas. Et très peu de psychiatres, il y en a un petit peu plus maintenant, très peu de psychiatres s'intéressaient à cette question. Et les magistrats, quand on leur disait « mais il faut éviter les récidives », ne savaient pas à qui adresser les maris violents. Or, de nombreuses associations se sont créées, qui prennent en charge maintenant les auteurs de violences, les accueillent en cas d'éviction, les héberge, parce que c'est pas le tout de les mettre dehors. Maintenant, il faut, comme les femmes autrefois, les héberger quelque part. Les recevoir à titre individuel ou en groupe de parole, ce qui est probablement préférable. Organiser les stages de citoyenneté qui sont maintenant demandés par les magistrats et mettre en œuvre le contrôle sociaux judiciaires, sociaux, éducatifs. Et en 2013, on pouvait recenser 46 associations qui s'occupent bel et bien maintenant des auteurs de violences. Une création dans le domaine de l'obstétrique, c'est la consultation du quatrième mois. Vous savez que cette consultation doit être systématique. Alors, je note... Cette consultation doit être systématique, mais n'est pas obligatoire. Bon, ça, c'est très français. Reconnaissons-nous là-dedans. Bon, mais enfin, quand même, elle a été créée et elle fonctionne dans pas mal d'endroits. Elle est faite par une sage-femme qui a le temps d'interroger la femme, de poser les bonnes questions dont on a parlé ce matin et qui n'est pas uniquement focalisée sur les bruits du cœur, etc. Et cette sage-femme s'enquiert sur les conditions économiques, sociales, affectives dans laquelle vit la femme et dans laquelle se déroule la grossesse. Et c'est très important parce que, d'une part, elle pourra détecter des violences qui ont une conséquence sur la grossesse. On l'a vu ce matin, des accouchements prématurés fréquents, des retards de croissance in utero, des souffrances fœtales. Et d'autre part, surveiller l'établissement ultérieur des liens mère-enfant. Enfin, malgré la faible diffusion du rapport Henrion, dont on m'a dit récemment qu'il n'était pas très diffusé, bon, et malgré la réticence des professionnels des santé, dont on a abondamment entendu parler ce matin, eh bien, une évolution se dessine chez les jeunes médecins. Et une enquête a été réalisée récemment, avec la collaboration de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, Paris 6 et d'autre part la MIPROF. Eh bien, elle a porté sur 1472 étudiants en médecine, 66% de femmes, 35% d'hommes, c'est normal. Elle a montré que si les étudiants se disent mal informés, ils s'intéressaient beaucoup plus que leurs aînés aux violences conjugales. Il faut dire qu'ils ne sont pas encore installés, ils n'ont pas encore les soucis de leurs aînés. Plus de 50% d'entre eux ont été confrontés, bel et bien, au cours de leur stage hospitalier, à un phénomène de violence. Et plus de 60% disent qu'elles ont été vraiment mal prises en charge. 90% disent n'avoir reçu aucune formation. Ça ne nous étonne absolument pas, malgré 13 ans d'efforts. Et 93% pensent que le médecin doit jouer un rôle. Et 95% se disent très intéressés et désireux de recevoir une formation. Du côté de nos autorités, eh bien, le 2 septembre, il y a eu un colloque à l'Académie nationale de médecine avec Madame Nadja Vallaud-Belkacem, qui a pris l'Académie de médecine de propos délibérés pour bien marquer l'importance du côté médical de cette affaire des violences conjugales. D'autre part, le 19 novembre, il y a eu un autre colloque. Et cette réunion d'information s'est produite en présence du président de l'Ordre des médecins, extraordinaire, et d'autre part, encore plus extraordinaire, de la président de la conférence des doyens, ce qui laisse penser que les choses vont peut-être quand même finir par évoluer. Et au cours de cette réunion, moi j'ai appris quelque chose de très intéressant. Une expérience a été conduite dans le cadre de l'Université Paris 6. Des étudiants ont été mis en double écoute au numéro d'appel, le 3919. Double écoute pour ces jeunes qui disaient « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh bien, à la suite, au cours de ce colloque, on a projeté les réflexions des étudiants. Et manifestement, à 90%, pour ne pas dire à 100%, ils avaient été surpris et manifestement ébranlés et convaincus que dans leur carrière ultérieure, il faudrait s'intéresser au problème des violences envers les femmes. Alors, dernière chose, je vous ai parlé des activités locales et de la possibilité de réunir au cours de colloques, de tables rondes, etc., les différents intervenants. C'est fondamental. Chacun a une partie du problème et ne peut pas dire qu'il détient toute la vérité. Eh bien, je dois vous dire qu'en 10 ans, je me suis déplacé dans beaucoup plus de 30 villes en France où, effectivement, le délégué régional, le délégué départemental des droits des femmes avait réussi à mettre sur son plateau le magistrat, le substitut de procureur, de temps en temps le procureur général, exceptionnel, le substitut de procureur, la gendarmerie, un peu moins souvent les travailleurs sociaux toujours, un peu moins souvent la police, et pratiquement jamais les médecins. Quelle que soit l'heure, bien entendu, ils sont retenus par leur clientèle, mais enfin, quelle que soit l'heure, il n'y avait que très peu de médecins, sauf une ou deux fois par exemple. Alors, je terminerai. Quelle piste d'action pour optimiser la prise en charge par les soignants? C'était dans mon titre. Eh bien, vous avez bien compris que la meilleure des pistes était de développer dans le cursus des études médicales un enseignement des violences en premier, en deuxième et en troisième cycle afin de leur apprendre à connaître le problème et de poser les bonnes questions. Il est évident qu'une formation continue est également indispensable, mais si on veut vraiment optimiser la prise en charge, je crois qu'il faut aider le MIPROF, la mission interministérielle, dans son travail. Elle a créé un groupe de travail pour envisager les différentes méthodes d'enseignement, et je crois que c'est excellent. Alors, d'ores et déjà, ce matin, on avait l'impression que pas grand-chose avait été fait. D'ores et déjà, il y a un polycopier réalisé par plusieurs auteurs et qui a été validé par les différents collèges, dont celui des gynécologues obstétriciens français. Des supports de cours sont proposés aux formateurs. Des courts-métrages, des clips ont été faits. J'en ai vu un, une consultation de médecin remarquable, qui montrait vraiment comment arriver à une femme manifestement d'emblée hostile et qui ne voulait pas répondre au problème, comment l'amener à la femme et en 10 minutes, pas plus, même pas 15 minutes, à faire en sorte qu'elle commence à évoquer ses problèmes. Et je dirais que de toute façon, on a toujours le temps de donner le numéro de téléphone d'une association ou d'un psychologue. Nous en avons entendu parler tout à l'heure. Une plateforme nationale des questions relatives aux violences est envisagée. En mars 2012, l'étude des violences a été insérée dans le programme d'études de nos sages-femmes. Enfin, une question sur les violences sexuelles devrait figurer dans le programme de l'épreuve nationale classant de l'internat dans les années qui viennent. Si j'ai bien compris, ça serait 2014 dans les bons cas. Alors, en conclusion, La matinée n'a pas été très agréable. On a entendu que les médecins. Oui, c'est en partie vrai. Mais je pense quand même, si les médecins sont les derniers à réagir, je pense que tout ce que je vous ai dit, et j'en ai oublié, mérite quand même que l'on félicite tous les acteurs, tous les intervenants, dont le dévouement dans cette affaire, et j'ai pu le constater sur le terrain, est véritablement inlassable. Et votre patience ayant été inlassable, je vous en remercie vivement.